Mais alors, juste une donne dans la paracha de la Yetzé, qui est depuis le verset 10 du chapitre 28. Depuis le verset 10 du chapitre 28, c'est à la page 131 dans vos livres, et jusqu'au verset 2 du chapitre 32, à la page 154. Si quelqu'un a besoin d'un livre, il y en a encore un. Bien, alors écoutez, c'est une sidra, bon, un ensemble de textes assez dense, puisqu'il va nous raconter pratiquement toute l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin, de l'exil de Laban de Sidra, de l'exil de Jacob chez Laban. Alors je pense que, comme je vous l'avais demandé les fois précédentes, vous avez déjà exploré un peu le texte, okay. On va vérifier. Alors peut-être que aujourd'hui on peut changer de méthode. Pourquoi tu es si loin de moi là-bas? Il y a un verset pour ça. Et alors, peut-être on va changer un peu de méthode, étant donné la densité des événements qui sont énumérés et racontés, et toujours à travers le thème central de la paracha, c'est-à-dire l'exil de Jacob chez Laban comme modèle de tout ce que seront les exils postérieurs. C'est la première fois que la Torah, de façon explicite, nous raconte non seulement la fonction de l'exil, mais les mécanismes historiques, sociopolitiques, dans un modèle qui est un modèle de préfiguration. Alors, si vous avez lu ce texte, si vous avez des questions qui sont posées à vous, je peux commencer peut-être par étudier les questions qui se poseraient à vous. Sinon, par la suite, je vous choisirai un certain nombre de thèmes qu'on étudiera ensemble dans tous les cas. Personne n'a de questions ? Inquiétant. Vous avez lu et vous avez tout compris.
C'est même que dans la sidra précédente, on est toujours surpris chaque fois qu'on l'est par le fait que Yaakov, vous l'avez expliqué, accepte de jouer le rôle d'État pour récupérer, récolter, hériter de la belle Abra. Là, on est toujours surpris de ce qui se passe, c'est-à-dire du fait que il trouve dans son lit une femme plutôt qu'une autre.
J'aurais pas dit ça comme ça.
On sait qu'il y a eu des mots de passe, on sait tout cela.
Vous avez dit des choses.
Mais ça ne manque pas de surprendre quand même. Ouais.
Chaque année. Oui, bon, ben, on va commencer par cette. Donc, c'est le problème de Léa et Rachel.
Oui.
C'est un problème qui se double d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Zilpa et Bilha.
Ça choque moins.
Voilà.
Non, il n'y a pas de ruse avec les concubines, tandis que.
Si, puisqu'une vient avec Léa et l'autre vient avec Rachel. Donc,
ah oui, mais.
C'est comme dirait le Talmud, Shnaïm chez Marba, au féminin. C'est deux qui sont quatre. Okay. Et, d'ailleurs, je pense que je vais reprendre cette question. Et, malgré tout, vous aviez déjà dans les analyses précédentes, celles que vous avez citées, suffisamment d'éléments pour rejoindre l'analyse que nous allons avoir. Il y a une autre question,
Félix. Qu'est-ce que c'est Emet et Yaakov ? La principale de Yaakov, c'est Emet. Et on voit que, d'après sa conclusion, il est tout sauf Emmet, il a toujours été. Il a
un petit peu. Il aurait fallu ajouter, apparemment. c'est bien le problème. Hein. Donc, c'est une question importante. C'est une bonne question. Vous savez, on a l'habitude de dire c'est une bonne question quand on ne veut pas répondre, mais ce n'est pas le cas. Quelle année a-t-il gagné, ma nièce? Attendez, on va se transformer en juge asphyxié. Ouvrez les portes. Ouvrez là-bas. Et là-bas, si c'est possible. Quel? Tcha Esrim. Alors, Esrim Shana. D'accord.
כן. עכשיו השאלה שלי, ואולי זה לא שייך, אז זה קבלת עול גלות קיבל על עצמו במובן מסוים.
כן.
זה אולי, מצד שני אנחנו שומעים בלימוד אחר, שהנשמה מתנדבת לגלות להיות בגור.
כן, דווקא למדנו את זה אתמול, כן.
כן. בשביל שיש מה, אז אולי יש גם בגלות, אני מקווה שתגיד לי שלא, אבל אולי יש בגלות גם צד כזה, שיש תיקון לעשות, שיכול לעשות רק שם. במובן של הנשמה שיורדת לגלות, שמתנדבת לגלות.
Attends, je traduis. Bon, la question de Rachel, c'est au fond le sujet de la fonction de la galoute, d'après ce modèle de Jacob chez Laban, étant donné qu'on apprend précédemment, c'est dans la fin de la paracha précédente, que la consigne que Rivka avait donnée à Jacob, d'aller se réfugier chez Laban, le frère de Rivka, Ken ? Ken, le fils de Ken. Pour se mettre à l'abri de la colère et de la jalousie, on verra si elle était justifiée ou pas d'Ésaü. Déjà un peu touché à ça la semaine dernière. Et on voit que Rivka lui donne comme consigne de rester quelques jours. Yamim Ahadim en hébreu. Or, tout se passe comme si, en fait, Jacob prend lui-même l'initiative de s'installer. Et c'est in extremis, parce que la haine de Laban, cette fois, se déclenche contre lui, qu'il est obligé de s'enfuir sur le conseil des filles de Laban, qui sont ses femmes d'ailleurs. Okay. Donc voilà la question qui est posée. Est-ce qu'il y a une analogie pour la question je ne sais pas si Adkarat et Zeba Mbeze Sefer ou Sheila Kaha. Il y a Shmakor là. L'analogie qui est faite entre la destinée de l'âme dans ce monde-ci, donc dans son lien avec le corps, est-ce qu'il y a une analogie entre ces deux processus, l'exil en dehors des rêves d'Israël a-t-il une fonction? Est-ce que cette fonction est analogue à l'exil de l'âme dans le monde d'en bas? Vous avez compris la question? Peut-être, c'est clair? Bon. Il existe des textes à ce sujet. Et ce qui était là hier soir, vous vous rappelez qu'on a touché un point de l'analyse à ce sujet. Et quand je vous ai parlé du Yetzer Hara, okay? Alors, formule plus précisément la question de Rachel, y a-t-il une fonction, c'est-à-dire un tafkid, comment on dit ça en français, tafkid ? Un rôle. Et par conséquent, peut-on apprendre, peut-être j'aménage un peu la question, peut-on apprendre comme modèle du modèle de la galoute, quoi que ce soit, de cette destinée d'exil de galoute de la Neshama dans le monde des corps ? C'est clair ? Comment je vais un petit peu aménager la question ? C'est ceci. Une image dans le Zohar. En général, le Zohar nous transmet son enseignement d'abord par image. Et il faut d'abord comprendre l'image comme telle. En général, les images sont analogiques et une analogie ne peut être comprise. C'est d'ailleurs la méthode logique la plus difficile, celle de l'analogie. La déduction, c'est facile. On a des règles pour vérifier. L'induction, c'est facile. Malheureusement, par analogie, c'est pas simple. On risque de se perdre dans des associations d'idées floues. Fumeuse approximative, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi d'ailleurs la Gemara dit, le raisonnement par analogie s'appelle Zerachava dans le raisonnement talmudique, ou Ekesh, mais surtout Zerachava. En Adam, Dan Zerachava Me'atou, et là, Im Kibel Merabé. On n'a pas le droit de conclure en certitude à partir d'un raisonnement par analogie si on n'a pas reçu confirmation de la tradition. Vous comprenez le problème? Tandis que Adam, Dan Kalvachomer Me'atou. Un raisonnement a fortiori, on peut le faire pour soi-même. Le raisonnement a fortiori, c'est de l'ordre de la déduction de l'induction. En général, vous savez que dans les sciences humaines, disons, dans la culture contemporaine, il y a des sciences dont la méthode est la déduction, par exemple la mathématique, des sciences dont la méthode est l'induction, par exemple la physique, et des sciences dont la méthode devrait être l'analogie, mais là, c'est plus la méthode la plus difficile à manier. Par exemple, en général, les sciences humaines, par exemple l'histoire. Quand on essaye de mettre en évidence des schémas régulateur législatif de l'histoire, on a tendance à employer la méthode par analogie et c'est extrêmement délicat à manier. Vous comprenez ça, c'est des historiens dans la salle. Top. Ou même des non-historiens, enfin, c'est l'expérience de la vie qui le font. Donc, retenez bien cela. Et alors, dans tous les cas, les images que nous transmet le Midrash du Zohar, qui est un Midrash particulier parmi les Midrashim, il faut d'abord le comprendre comme image, et ensuite c'est plus qu'une image, mais enfin au niveau de l'image. Et je me rattache aux analyses d'hier soir pour ceux qui étaient là. C'était hier soir déjà, pour ceux qui étaient là. On a comparé la Neshama avant qu'elle ne soit donnée à un corps, et vous rappelez de la catégorie, la neshama va être comparée dans cette image à la lumière, au or qui vient dans un keli pour le résultat étant une présence dans ce monde-ci. Toute présence dans ce monde-ci a un keli et un or. Le keli dans cette image, c'est le corps, et le or, c'est la neshama. Le nefesh étant le résultat de cette synthèse, mariage difficile entre l'âme et le corps. Et le corps et l'âme. Alors dans le Zohar, on compare la neshama avant qu'elle ne descende sur terre à une fille dans la maison de son père. Bat, bebet, avir. Pas seulement une fille comme ça, une princesse dans la maison de son père, le roi de l'univers. Et on lui demande qu'est-ce qu'elle voit là dans ce monde d'en bas que vous connaissez. J'ai appris par la radio qu'il y avait une grève au monde, mais enfin, vous pouvez lire le monde même quand il n'est pas en grève. Et puis, on lui demande mais qu'est-ce qu'il attire dans ce monde d'en bas, qu'elle acquiesce, qu'elle concentre à descendre dans ce péril de peut-être qu'elle ne va pas remonter. Comme il faudrait. Alors, le Zohar répond, il vaut mieux être une femme dans la maison de son mari, même si c'est un charbonnier, qu'une fille dans la maison de son père, même si c'est un roi. Vous voyez la différence de position. Quelle est la différence? C'est la catégorie du mérite dont nous avons parlé. La fille dans la maison de son père est chez elle, mais elle est chez elle, sauf en invité. Tandis que la femme dans la maison de son mari est chez elle. Elle a acquis son baït, si je veux dire. Alors donc, c'est une des images qui explique cette descente des âmes dans le corps, parce que la question dans les corps, la question est d'un étonnement. Si on comprend de quoi on parle, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce que désire cette neshama d'accepter, si on comprend bien les termes qu'on emploie, le monde des valeurs absolues pour descendre dans ce monde de boue, de sang, avec un péril extrême. C'est donc que ce qui souffre est très fort. Cette motivation est très forte. Et donc, c'est qu'il y a un taf qui. Bon, premièrement, on a une première pré-réponse en m'appuyant sur les analyses d'hier soir. C'est qu'il y a une nécessité afin d'acquérir son mérite d'être, son droit d'être. C'est clair jusque-là? Bon. Et je crois que j'ai formulé en hébreu. Peut-être pour vous relier très rapidement à la question posée, je vous citerai un autre thème. Je ne sais pas si nous l'avons déjà étudié ici. Je pense que d'après vos questions, nous allons revenir au problème de la galoute inévitablement. C'est le thème suivant. C'est qu'on a posé la question. Dans la Gemara, le Maharal a un chapitre très important dans Gourot Hashem sur cette question de la Gemara de Choulin. Comment s'expliquer le fait que Abraham s'entend dire déjà avant que l'histoire de sa descendance ne commence, avant que l'histoire d'Israël, et au temps d'Abraham, il n'y a pas encore le nom Israël, il faudra attendre Yitzhak, il y a un cours qui est nommé Israël, comment se fait-il que Abraham s'entende déjà annoncer l'exil comme dimension presque sine qua non de l'histoire de sa descendance. Vous vous rappelez du verset que l'on répète dans la Haggadah de Pessah, si vous voulez, dans la référence tout de suite, « Yadoar todar tuger yedaracha beretolahem behu » Savoir que tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le tien. Vous connaissez le contexte. Et nous avons de nouveau là un exemple vraiment central de ce que notre histoire nous est racontée avant qu'elle commence. Ici, parenthèse dans la parenthèse, ici il y a place pour l'indication d'une formule très importante dans la tradition qui est le mérite des pères. Scout à vote. Le mérite des pères, c'est qu'ils ont adhéré au programme d'une histoire avant qu'elle ne commence, sans qu'il n'y ait encore aucun signe, aucun indice que ça le concerne. Alors que les fils ont 4000 ans d'expérience pour vérifier s'il s'agit de ça ou pas. Vous commencez le problème. Donc, je refais cette parenthèse dans la parenthèse. Et alors le Maharal en particulier pose la question de la manière suivante. Puisque déjà, il y a des raisons que cette manière d'être homme qui commence à être élaborée, à émerger de la préhistoire antérieure avec Abraham, dans les péripéties que nous sommes en train de lire précisément dans les sidrotes que nous lisons maintenant, Comment se fait-il que l'exil n'ait pas commencé à Abraham lui-même? Il y a beaucoup de réponses pour cela. Abraham, comme tel, n'est pas concerné par l'exil. Ce n'est que dans sa descendance qu'apparaîtront, que se dévoileront, ou pas, mais si elles se dévoilent, elles se sont dévoilées, alors la joie, qu'apparaîtront les tendances qui correspondent à la nécessité de l'exil. Mais une des réponses que donne le Maharal est très importante pour nous, c'est ceci. Je crois que nous l'avons étudié l'année dernière, peut-être pas dans ce cours-là, donc sur la Shoah, je ne me rappelle pas. Mais enfin, je le rappelle dans tous les cas. C'est que si Abraham avait commencé l'exil, alors Ishmaël aurait été compris dans la promesse de la terre. Parce que vous verrez que dans tous les contextes de la promesse de la terre, enfin, prenons ce contexte-là, la promesse de la terre est liée à l'annonce de l'éventualité de l'exil, pour désigner l'identification à Israël. C'est donc clair ? Alors, si l'exil avait commencé avec Abraham, Ishmaël aurait été concerné par la promesse de la terre. Dieu préserve, même sans être concerné, les problèmes qu'on a avec lui. Bon. Et puis, si Isaac avait été concerné par l'exil, Ésaü aurait été concerné par la promesse de la terre, le royaume des croisés, comme on l'appelait sur la terre. Et encore une fois, de même que pour Abraham, il y a des raisons particulières à Yitzhak en tant que tel, sa manière d'être homme, qui fait qu'il n'est pas du tout concerné par l'exil. Abraham a voyagé en Égypte, mais ce n'était pas en exil, il est reçu quand même prince. Mais si Elohim a tabé Kirbenus, on l'avait dit déjà dans Frère Sarah, et il est reconnu comme étant Abraham dans la civilisation égyptienne de ce temps-là. Il est reçu avec honneur, pas du tout. L'épisode de Sarah, tout cela, ça c'est une chose, ça ne fait pas écouter. Et seul Jacob est concerné vraiment par l'exil, et c'est pourquoi, parenthèse importante, alors que Abraham est sorti de son propre exil, la Torah n'y fait allusion qu'en passant. C'est le Midrash qui nous restitue les conditions de l'exil d'Abraham à Ur-Kasdim, ce qui pourrait être considéré là, au niveau d'Abraham, comme le premier modèle de l'exil, mais la Torah passe là-dessus, par allusion. Tandis que le premier modèle de l'exil va concerner Jacob, je raccroche à ce que le Maharal enseigne à ce propos, vous l'avez donc en tête, Jacob est la seule lignée d'Abraham qui prend sur lui l'éventualité de l'exil. La descendance d'Ishmaël a voyagé partout, mais partout en conquérant. C'est pas de l'exil. Hein? Si vous comprenez que c'est nous sommes juste, nous comprenons que c'est de l'exil. Peut-être que nous sommes la dernière génération à comprendre, si Dieu veut, mais en tout cas, je sais déjà que nos descendants immédiats, les Israéliens, n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils viennent. Ils sont déjà ailleurs. Vous comprenez le problème. Et de la même manière, Ésaü et sa descendance, ce qu'il a suscité comme type de civilisation, Ishmaël, c'est l'islam, vous vous rappelez de cela, si on a étudié cette année, Esav, c'est la chrétienté, c'est moins évident que pour l'islam et Ishmaël, mais si c'est nécessaire, je reviens sur ce point, vous me direz vous-même, tout de suite. Et de la même manière, la descendance d'Ésaü a voyagé partout, l'Empire romain, imaginez, toute la civilisation occidentale, c'était cet impérialisme-là. Mais toujours en conquérant, jamais en exil. C'est clair ? Seule la descendance de Jacob, qui donne en fin de compte le peuple juif, mais déjà en tant que peuple hébreu, dans l'exil d'Égypte, qui est l'exil déjà à l'échelle de la société, le modèle est en exil à l'échelle individuelle de Jacob chez Laban, okay ? Seul Jacob a pris sur lui l'éventualité de l'exil. Les circonstances dans lesquelles cet exil se passe vont dépendre de l'alter, comment on dit ça ? On dépend du partenaire. Le partenaire étant l'humanité ambiante, l'humanité universelle. C'est pas a priori fatal que l'exil soit aussi catastrophique qu'on l'ait connu. Ça dépend des goyim chez qui on est en exil aussi, et centralement. Et puis avec un jeu de feedback, de réciprocité permanente et de responsabilité redéléguée 100 fois. Un grand proverbe de la sagesse juive populaire, qui est toujours très profond d'ailleurs, comme toutes les sagesses populaires d'ailleurs. C'est que les goyim ont les juifs qui méritent et les juifs ont les goyim qui méritent. Et c'est vrai. Et c'est déjà une première indication de réponse. Bien sûr qu'il y a un tafkid dans la relation à l'universel humain. Et il n'y a pas une fatalité a priori que cette relation à l'universel humain, qui fait partie de la destination à Israël, de la destinée à Israël, de la manière d'être en Israël, annoncée à Abraham tout de suite, ne doit pas forcément, par fatalité a priori, comme je dis, s'exprimer, se réaliser dans une persécution catastrophique, comme ça a été le cas le plus souvent, mais pas toujours, mais le plus souvent. Ça, ça dépend des circonstances de l'alliance d'exil, si vous voulez, ou de l'alliance de diaspora, pour employer un terme qui réintégrait l'autre dimension éventuelle, avec le partenaire de là. Donc il y a, d'une certaine manière, une nécessité d'aller en voyage pour Jacob. Okay? Mais n'oubliez pas qu'il y a deux motivations à son voyage. Je vous relisais les textes précédents. La motivation du voyage de Jacob qui quitte Eretz Israël, qui s'appelle encore Eretz Knaan, à Beersheba. C'est de Beersheba qui s'en va. Vayetze Yaakov et Beersheba. C'est selon la consigne que son père lui avait donnée dans les textes précédents, c'est précisément de prendre femme dans la famille d'Abraham, dans la famille d'où Abraham était sorti. Rappelez-moi que je revienne sur ce point. La motivation de ce voyage par la consigne de Rivka, c'est de s'enfuir de la colère, de la haine de Ésaü et de se mettre à l'abri. Mais dans tous les cas, a priori, de ces deux motivations concrètes elles-mêmes, et en le récapitulant, l'éventualité de la relation à la civilisation ambiante, à l'universel humain extérieur, à travers son visage le plus proche à chaque époque des temps de l'humanité, et le visage le plus proche de l'humanité extérieure pour Jacob, qui est l'identité d'Israël en germe, c'est à son retour de l'exil qui sera nommé Israël, hein, c'était Laban, il avait le goy privilégié, l'oncle, tous les plus, qui va devenir le beau-père. Hein. Et c'est dans cette situation la plus privilégiée, s'est dévoilée comme étant la plus critique du point de vue des avatars et des éventualités de l'antisémitisme à la clé de l'exil. C'est-à-dire, il y a donc effectivement là une analogie dans cette image, bien évidemment. C'est pas l'objet de l'étude, mais c'est pourquoi j'ai répondu avant de votre question. La question a sa réponse formelle, en fait. C'est bien fait. Et puis, de la même manière, la Neshama va en exil chez le corps, enfin pas, hein, parce qu'elle a un tafkid à jouer. Hein. Vous voyez, l'analogie formelle, encore une fois, que je désigne, les droits à la terre pour Jacob viennent de son acceptation, comportent son acceptation de l'éventualité de l'exil, opposée à Ésaü et à Ishmaël. De la même manière, le droit de s'acquérir comme femme de son mari pour la Neshama, niveau supérieur de fille de son père c'est cadeau. Hein. Mais il arrive un stade où elle préfère être chez elle, par elle-même, même femme d'un charbonnier, un homme d'en bas, imaginez, alors qu'elle était avec les anges en haut. Vous comprenez l'image, ok? Donc il y a bien évidemment une analogie. Je vais ajouter simplement un point de cette analyse, et puis vous allez me rappeler à quel moment je me rappelle qu'il y en a un autre. Okay? C'est ceci. Je pense que nous vivons aussi, par rapport à ce thème-là, un temps privilégié. C'est la première fois que des chrétiens ou que des musulmans sont en exil en Israël. C'est un exil doré pour eux. Vous savez ce que c'est, vous lisez les journaux, la manière dont ils sont en exil. Par exemple, il y a une petite communauté d'Européens, d'Arabes chrétiens, mais disons de Blancs chrétiens. Parce que ce n'est pas seulement des Européens, il y a aussi des Américains, qui ont des petites communautés chrétiennes en Israël. Et je me souviens d'une conversation avec un de leurs prêtres, où il disait de façon aiguë à quel point il commençait à entrevoir qu'est-ce que c'était pour les juifs pendant 2000 ans, de vivre comme minorité dans une majorité hostile. Et eux, ils ont la chance que la majorité n'est pas hostile. Elle est peut-être hostile en parole, mais vous aurez la Knesset pour les protéger, justement, les uns et les autres. Vous savez, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un exil doré. Bon, et c'est la première fois que la conscience d'Ishmaël et que la conscience de Esav ont expérience, qu'est-ce que c'est l'exil, mais vraiment dans une situation privilégiée. Être en exil chez les juifs, il n'y a pas mieux que ça comme destinée de bagnard. Oui, et plus encore, il y a quelques jours, peut-être une semaine et demie, j'ai lu dans Marie un article qui était la traduction d'une lettre d'un journaliste canadien qui s'était barré dans mon pays. Et je ne sais pas si ça vous est tombé sous les yeux, c'est dommage, j'ai pas le temps de découper les articles, autrement on ferait des cours rien que les articles. et vous disiez à quel point c'est formidable d'être goy chez les juifs en Israël. Lui décrivait ça comme un paradis sur terre, l'exil. Donc vous voyez à peu près. Et il est possible, je ne sais pas, il est possible qu'ils sont, et ils ne sont pas du tout au stade de ce que je veux dire, mais il est possible qu'ils avaient cette expérience à faire pour qu'un dialogue éventuel futur soit possible, qu'on commence à s'expliquer. Okay. Mais je crois que l'expérience est faussée, parce que ce n'est pas vraiment de l'exil comme nous l'avons connu. Vous comprenez ? Je voudrais comparer quand, et encore, je parle du temps d'avant la guerre mondiale, quand un juif allait à sa synagogue le Shabbat et qu'il passait dans le parti chrétien ou musulman, et quand une bonne sœur ou un curé traverse un quartier d'une fois Jérusalem pour aller dans son église, c'est pas la même situation. Il sait très bien qu'il n'a pas regardé d'un côté ou de l'autre, ne serait-ce que ça. Vous comprenez ? Bon, voilà un petit mot. Alors, avant d'aller plus loin pour les autres questions, oui, mais rappelez-moi, je vous avais dit en passant, je reviendrai là-dessus, mais... C'est pas ça.
C'est l'image, la mesa,
c'est... La consigne du père par
rapport
à la consigne de la mère. Je crois pas que c'était ça. Non, c'est quand... je suis pas... Bon, vous comprenez, c'est pas comme l'année dernière où j'avais ma mémoire intacte, j'ai des problèmes de fatigue. Donc, si je vous dis, rappelez-moi ça, notez-le tout de suite, parce que moi je vais oublier. C'était quoi ? Vous êtes sûr ? Eh bien.
J'ai 30% de la famille qui s'apprend. Ah, et vous savez que mon papa le sauver de chez
lui.
Chez là-bas, mais quand même.
Ben, je m'en rappelle pas, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression que c'est ça, maman, je me dis où, comme ça. Donc. Bien, est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui. Mon père Achakomas va écrire un cours.
Bien fond.
Le Rashi dit qu'il ne fallait pas dire ici, voyez les chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas un prélude à la Yerida ? Parce que vous avez l'histoire que les patriarches, l'un représentait l'Aria, Isaac représentait le Sabre, jamais descendu, et Jacob qui est Yored.
Oui, j'ai dû vous dire ça rapidement en passant.
Oui, oui. Alors, Beit Yaakov, est-ce que c'est pas un prélude à la Yerida et parce que c'est bien le Yerida Yaakov ?
Non, alors attendez. Dans ce plan-là, que Abraham est le relais de Ur-Kasdim, Yitzhak n'a jamais quitté le pays. Et puis, Jacob est descendu en exil, mais c'est l'exil d'Égypte, c'est pas celui-là. Okay. Et là, l'expression de Reda Mitzrayma est employée par le texte. Le verbe de descendre est employé par le texte. Mais c'est plus tard. C'est quand il va en Égypte rejoindre Joseph. Il va mourir là-bas et on va ramener son cercueil comme font les juifs de la Galoute quand ils ne viennent pas vivants. Vous voyez, donc le modèle est un peu comme ça. Oui, il me revient quelque chose de ce que je voulais vous dire, c'est que cette fonction de l'exil que nous voyons être explicitée au niveau de Jacob, ici en modèle, l'exil de Jacob chez Laban, dans le pays de Laban, pas l'exil où il va rejoindre Joseph, ce qui va être l'exil des 400 ans qui sont 210 ans en Égypte. Okay. C'est la fonction de relation à l'universel. Mais j'en ai quand même parlé tout à l'heure. Ne retenez au moins cette formule. Il n'est pas nécessaire que ça dure si longtemps. C'était le début de la question de Rachel. Okay. Et il n'est pas nécessaire que ça dure si longtemps. Le fait que ça dure si longtemps, qu'on s'installe, est un problème en soi, sur lequel on pourra revenir, et qui est comme tel la cause centrale de ce que la fonction d'exil se complique tellement et devient si catastrophique. Et je vous donne une autre image qui nous vient de Midrashi. Entendons-la d'abord comme image, mais c'est plus qu'une image. C'est que tout se passe comme si à certains moments de l'histoire, l'humanité est comparée à une matrice qui est fécondée par l'identité d'Israël. Alors le temps de l'embryon, c'est le temps de l'exil pour Israël. Israël en exil est comme un embryon au sein de l'universel humain. Arrive le temps de la naissance. S'il y a un empêchement à la naissance, il y a une catastrophe. Et pour Israël et pour l'humanité. Parce que l'embryon, qui ne veut pas naître, empoisonne sa mère. Elle est tellement empoisonnée qu'elle empoisonne son fils. C'est le temps tragique d'antisémitisme agonique, je ne sais pas comment dire, de paroxysme, quand le temps arrive d'une fin d'exil et que ça ne bouge pas. Alors il y a un empoisonnement réciproque. L'enfant qui ne veut pas naître rend fou la mère qui voudrait en accoucher, et puis la mère devenue folle de ne pas pouvoir accoucher rend fou l'enfant qui ne veut pas naître. Vous avez compris l'image. Malheureusement, je crois qu'on a vécu une période pareille avec le temps du nazisme, sans trop chercher une analogie forcée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, chaque fois que nous parlerons de la fonction de l'exil, il ne faut pas oublier que la fonction de l'exil n'a de sens, de vraisemblabilité, que comme premier moment d'un mouvement qui a deux moments. Il y a l'aller d'Israël vers les nations, ça c'est l'exil, la relation universelle, et il y a le retour à Sion. Galout, ça fait partie d'un diptyque Galout de Géoula. S'il n'y a pas la Géoula avec la notion de Galout n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors ici, on retiendra cette question qui est importante pour elle-même. Cette installation de Jacob dans son exil, il y a une éclipse dans tout ce récit de la relation de Jacob avec ses parents en Eretz Israël. Il n'a même pas signe de vie. Okay. Mais je vais ajouter quand même quelque chose, mais je ne crois pas que c'est ça que je voulais vous dire, mais ça fallait. C'est que cette motivation de Rivka est Vaïta Shama Yamim Ahadim, c'est comme ça qu'il dit le récit. Et tu seras là-bas quelques jours, il y a encore une autre consigne, et je te ferai appeler de là-bas. Okay. Et on n'a aucune trace dans le texte qu'elle l'a fait appeler. Mais c'est moi qui ajoute, hein, je n'ai pas de source à vous citer pour ça. Est-ce qu'il avait besoin qu'on l'appelle pour revenir chez papa maman? Si je dis, vous comprenez? Il y a un problème. N'oubliez pas que, et nous le verrons surtout dans la paracha de la semaine suivante, il y a deux niveaux d'identité différents, Jacob et Israël. Quand Jacob reçoit le nom d'Israël, il y a une autre stature, un autre profil. Au niveau Jacob, on va nous faire la carte d'identité du point de départ. Hein. Et là, la Torah nous a donné un gros plan sur la tendance de Jacob à être de l'exil. Dans la Kabbalah, on a fait une analogie entre... j'ai pas encore répondu à votre réponse. Hein. Non, la tienne, c'est la tienne. Les RHL, c'est vous. Hein. La question de les RHL, c'est vous.
Oui.
Dans la Kabbalah, on a fait une analogie. C'est que, de la même manière que Jacob a eu deux femmes, Léa et Rachel, il y a deux Talmuds, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Mais je reviendrai, je raccorde avec là. Et le Talmud Babli, le Talmud de Babylone, est comparé à Rachel, qui est la femme de Jacob à l'indice exil. Et le Talmud de Jérusalem est comparé à Léa, qui est la femme de Jacob à l'indice Eretz Israël. Et on voit que dans l'histoire, de la même manière que Jacob a préféré Rachel, Jacob, les Juifs ont préféré le Talmud Babli. Vous avez remarqué? Bon, la Kabbalah me donne des tas de vérifications numériques, etc., de cette analogie, mais en fait, je la donne formellement comme cela. Et tout se passe comme si, dans cette identité que nous appelons Israël, mais à son indice Jacob, avant d'avoir reçu l'authentification du profil d'Israël, à proprement parler, il y a une espèce de préférence pour Rachel, c'est-à-dire de tendance à l'exil, qui, dévoilée comme fait historique, est incompréhensible. Vous vous rappelez certains d'entre vous, peut-être l'année dernière, de la conférence d'Alain Petit au choix, qui a fait la critique de cela. Vous rappelez de cela? Je pense que ça a dû être enregistré parce que c'était très, très bien fait comme analyse. Hein. Et un fait qui, comme tel, est incompréhensible, mais qui a cependant, par la tradition, des explications, bien sûr. En particulier, je crois que, en bonne part, il s'agit de la tendance à l'universel. C'est l'exil, la capacité d'exil qui dévoile la tendance à l'universel, authentique, réelle, pas l'impérialisme de Ishmael ou l'impérialisme d'Aesav. C'est très différent. L'impérialisme, alors on est chez les autres, mais en impérialisme, et d'autre part, la relation à l'universel, telle que Jacob l'a prise sur lui, la relation d'exil, c'est-à-dire de la communauté juive indexée sur la cité des autres. Vous comprenez la différence en tant que communauté avec le risque d'être ghetto et avec tout ce que ça implique. Ça veut dire en bonne part. Il y a aussi, ça on l'apprendra avec le récit de la sortie d'Égypte, de l'exil d'Égypte, comme modèle au niveau de la société. C'est ce que le texte dira dans le livre de l'Exode, la nostalgie des allocations familiales d'Égypte, le Sirabassar, etc. Ça, c'est en mauvaise part. Mais je crois qu'Alvetiochor l'avait dit, même quand les Juifs étaient très malheureux chez les Goïms, qui n'avaient pas d'allocation familiale, eh bien leur souhait l'année prochaine à Jérusalem était tout autant mythique. C'est pas parce qu'ils avaient intérêt vraiment à rester chez les Goïms. Ils étaient persécutés par les Cosaques. Okay? Et même persécutés par les Cosaques, être sioniste était condamné comme étant un voyou. Vous connaissez cette histoire. Vous vous rappelez de cela? Alors il y a quelque chose qui travaille là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, en bonne part, il est bien évident que c'est la relation à l'universel. Je crois qu'il faut mettre bien cela en évidence, c'est la prérogative de Jacob en tant que peuple. Nous la retrouvons dans l'histoire du peuple d'Israël. Jacob est nommé Jacob dans l'indice de l'exil. Israël, et il est nommé Israël dans l'indice du retour. Vous n'oubliez pas cette règle. Bien clair, je viendrai. Hein. Mais ça, rappelez-moi, je vais vous donner les versets. On va anticiper un peu sur les textes qui viennent. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas ne pas, et c'est simplement prendre acte des faits sans les interpréter. On ne peut pas ne pas percevoir cela. C'est qu'il y a une seule manière d'être homme au monde qui est capable d'être aussi n'importe quelle autre manière d'être homme au monde, c'est le peuple juif. Qu'est-ce qui dévoile cela? Mais malheureusement, dans la caricature et dans la catastrophe, c'est l'exil. Comme je disais tout à l'heure, c'est le seul peuple qui a pris sur lui l'éventualité de l'exil, que c'est concrètement premièrement cela. Ça n'existe nulle part dans l'humanité, une collectivité humaine qui est elle-même, et quelle que soit la difficulté d'être, et qui peut être n'importe quelle autre manière d'être homme, par permutation circulaire. Les juifs peuvent être ou allemands, ou italiens, ou anglais, ou français, ce que vous voulez. Hein, et ils le sont avec un patriotisme local, vieux, comment on dit, Baruch Hashem, hein, inouï, comme c'est pas possible. Hein. Non, les Arméniens ne sont pas du tout dans le cas d'Israël, de l'exil d'Israël, parce que l'Arménie comme métropole a toujours existé malgré l'exil des Arméniens exilés. Okay. Et en fin de compte, peut-être formellement à la manière des Juifs qui s'assimilent, lorsqu'un Arménien s'assimile, il n'est plus Arménien. Mais il s'agit d'une diaspora. Il y a d'autres diasporas, il n'y a pas seulement les Arméniens. Il y a la diaspora des Allemands en Amérique. C'est une diaspora de l'Allemagne. Et, tu vois, les Gitans, ça ressemble beaucoup plus à Israël. D'ailleurs, je crois que la vie commune ou la mort commune qu'ils ont eue pendant le nazisme a énormément rapproché les Gitans et les Juifs. Énormément. Donc, je vais vous parler des Gitans, ça fait une grande parenthèse, mais on peut noter cela. Ça, oui, ça ressemble beaucoup plus. Mais je veux dire, malgré tout, on ne trouve pas chez les Gitans ce phénomène inouï de l'émancipation des Juifs qui, dans cette contradiction, à la fois s'assimiler mais vouloir rester soi-même différent des autres. Je ne sais pas si je vous ai raconté à propos de Hanouka l'histoire du sapin, hein, du pommier et du sapin, je vous ai jamais raconté ça. C'est une image que j'ai inventée un jour pour expliquer ce problème de l'identité juive de diaspora. Je n'ai jamais inventé une miracle, ça ne se fait pas. Hein. Il y avait un jour une graine de pommier qui est arrivée avec le vent, Ania Sohara, battue par la tempête, comme dit le prophète, qui est arrivée dans une sapinière, là où il y a des sapins. Alors la graine a germé, et puis un pommier est né parmi les sapins. À force de voir autour de lui que des sapins, il s'est pris pour un sapin. Alors un jour, vous devinez où je veux pas arriver. Alors un jour, il y a un sapin qui lui demande, mais toi, qu'est-ce que tu es? Il répond, mais je suis un sapin. Ah bon, tiens, sapin. Mais tu ressembles à un pommier. C'est que je suis un pommier. Alors les sapins commençaient à. Alors finalement, ultimatum, sapin ou pommier? Bien réfléchi, il a dit sapin. Eh bien, ça tombe très bien. C'est bientôt la Noël. On a besoin d'un sapin et tu vas voir ce qu'on va te faire. Alors c'est à peu près ça. Il y a une espèce de passage à la limite du caricature du patriotisme local dont vous n'avez aucune idée. Enfin, vous avez idée, mais vous avez oublié, j'espère. Hein. Je vais raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement, que j'aime bien raconter pour illustrer ça. Quand j'étais en exil, je m'occupais des étudiants juifs, et nous étions une fois dans un camp international des étudiants juifs. Entendez l'expression « camp international des étudiants juifs ». C'est inouï. Ça se passait en Hollande. Et le manché du camp, le directeur du camp, était donc de l'Union des étudiants juifs de Hollande. Et puis, il parlait l'anglais parce que la majorité des délégations parlait l'anglais, que ce soit celle d'Angleterre, d'Écosse, d'Afrique du Sud, etc. Alors un jour, il voulait désigner le rassemblement des parlants anglais, des anglophones, dans telle ou telle salle, pendant que les francophones seraient dans une autre, les espagnophones, comme on dit hispanophones, okay, dans une autre, etc. Alors il s'est trompé. Au lieu de dire British, il a dit English, c'est comme ça que ça se dit. Okay. Alors, la réaction, j'ai dans ma mémoire, des juifs irlandais, écossais, gallois, vous n'avez aucune idée, britanniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils étaient outrés. Qu'on les ait pris pour des anglais. Voilà, en France, ça va jusque là. On est maintenant juifs auvergnats, alsaciens, corses, bretons. Alors, qu'est-ce qui travaille là dans cette force-là? Il n'y a pas un peuple comme ça au monde. Ça se dévoile dans la caricature, mais ce qui se dévoile, c'est la tendance à l'universel. Et c'est une chose que l'égoïsme n'arrive pas à comprendre. Et les juifs eux-mêmes, c'est irréel, c'est surréaliste. Mais c'est clair, parce que les deux choses sont sincères. Le repli dans la spécificité du pommier et l'aller vers l'universalité du sapin, les deux choses sont authentiques. Puisqu'une pomme, c'est une pomme, du pommier ou du sapin. On dit ça, une pomme de pin. Bon, alors je referme la parenthèse. Il y a donc quelque chose qui travaille là. La question, comme a signalé Rachel tout à l'heure, c'est, il s'agissait de quelques jours. Yavim Achadim, pourquoi si longtemps? C'est une sorte d'installation qui est vraiment une espèce de modèle explicatif de ce qui se passe dans nos églises. Dans nos églises. Je ne fais jamais exprès, mais ça m'arrive toujours comme ça. Et ça peut être un des éléments de définition effectivement de l'exil de Jacob chez Laban comme modèle des églises. Lorsque vous étudiez les péripéties, alors vous voyez que les mécanismes sont des mécanismes modèles, des mécanismes types. De toute l'histoire de l'exil. Il y a d'abord cet enthousiasme de se mettre au service d'eux. On a trouvé la cité humaniste, quelque part. On se met au service d'eux. Ça, c'est Jacob devenant le berger des troupeaux de là-bas. Et qu'est-ce qui lui améliore ces troupeaux? La fonction de exilique, si j'ose dire, c'est l'amélioration de la race ovine. Il améliore les troupeaux de là-bas. Un peu, dès que les juifs arrivent quelque part, ce qui se passe dans le monde économique. C'est ça. Et puis, vraiment, cet enthousiasme de la mise au service d'eux. Et puis, finalement, à la fin, c'est la fin de la sidra, alors le beau-père, qui était long, commence à s'énerver. Alors, statut des juifs. Comme on disait au temps du nazisme en France, j'ai oublié de qui c'était ça. Comment c'était cet humoriste juif qui s'appelait Christian Bernard, oui, qui disait on bloque les comptes et on compte les blocs. Exactement ce qui se passe à la fin. Oui, c'est lui qui disait ça. Et vous comprenez ce que je veux dire? Exactement ce que Laban va dire à Jacob. Alors Jacob s'enfuit in extremis grâce à l'intervention de cette femme. Vous voyez comment nous vivons cette histoire? Bon, qui pourrait donner une réponse? Une réponse à cet étonnement. Qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Premièrement, on a pris acte, c'est une dimension d'identité qui travaille les juifs. Quand il reçoit le nom d'Israël, c'est fini. Okay? C'est un deuxième niveau, un deuxième profil, comme j'ai dit. Israël, c'est quand il est en voyage, il est en voyage. Il ne se prend pas pour le genre de personne. Il y avait une partie d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a symboliquement entre nous dans cette amélioration d'être des